La brise du mammouth, le podcast ciné.
C'est quoi encore cette connerie hein?
Le podcast ciné. Invité.
Sur mon collègue, un autre fouille merde.
Un thème.
L'amour est impossible.
Vous avez 3 heures.
2 films.
Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ce célèbre?
Un choix.
C'est fantastique.
Présenté par Mammouth.
Et quand tu veux, Mammouth.
Tu veux que je fasse parler la poudre?
Ah oui.
Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de la brise du mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui je reçois Léo Yurilo.
Salut.
Salut. Tu vas bien?
Ça va très bien, et toi?
Bah écoute, ça va pas mal, c'est un retour.
Ouais. Deuxième épisode.
C'est marrant parce que la dernière invitée, ça a été Jess.
Ma copine.
Ta copine, voilà, donc on reste en famille, hein, c'est un peu ça.
C'est ça, ouais. Famille décomposée maintenant, mais en famille.
Donc toi aussi, tu fais partie de la sororité?
C'est ça, exactement. Mm-hmm. Membre fondatrice de la sororité, donc cette association qui a pour but de mettre en avant le travail des femmes et des créatrices dans le monde du cinéma de genre.
D'accord, donc on en a parlé un petit peu la dernière fois avec Jess, tu veux rajouter quelque chose?
Ça va peut-être faire un peu redite, mais grosso modo, on fait des lives où on invite des créatrices, on fait des événements, là on commence à travailler un petit peu avec certains distributeurs pour mettre en avant certains films, donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les prochaines actions.
Et tu fais aussi des chroniques sur Fucking Cinéphile?
C'est tout à fait ça, un blog de passionnés de cinéma. Tous bénévoles, volontaires, chacun à son rythme. Et vraiment, l'idée, c'est de partager la passion du ciné.
Toi, c'est quoi un petit peu là, tes dernières chroniques?
Sur quoi j'ai écrit? Alors là, je vais écrire sur Vampire Humaniste, mm-hmm. Cherche suicidaire consentant. Un super film, vraiment une pépite québécoise. Je pense qu'il sera très largement sorti quand l'épisode va sortir. Mais s'il est encore disponible en salle, allez-y, foncez, c'est génial. J'ai écrit sur Tiger Stripes. C'est le film qui avait reçu le Grand Prix à la Semaine de la Critique. Tout le monde en avait parlé au moment de Cannes l'année dernière. Et là, gros flop, j'ai pas compris. Personne n'en a parlé pour la sortie. Étonnant. Mais film très sympa, film malaisien, un petit peu à la manière de Grave, pour ceux qui avaient aimé un teen movie un peu vénère.
Un peu sanglant, je crois comprendre.
Ouais, un peu body horror, un peu... mais très sympa.
Il vient de sortir là, c'est ça?
Ouais,
tu vois,
ouais,
j'avais raté la sortie. Ouais.
Oui, il y a 2-3 affiches qui sont apparues la semaine dernière et c'est tout. Enfin, personne n'est venu en parler à la télé, enfin, rien du tout.
Ouais, bizarre. Des fois, comme ça, il y a des films qui pourtant sont bien reçus en festival et qui après passent complètement à côté lors de la sortie.
C'est très étonnant. Bon, j'espère qu'il aura son petit public quand même, parce que... mais bon, des fois, il y a des petites surprises comme ça, on ne sait pas pourquoi.
Mauvaise surprise. Ouais.
Oui, bah, mauvaise surprise du coup, mais le film est une bonne surprise par contre.
Bon, bah voilà. Est-ce que t'es prête? On attaque?
Je suis prête, on y va.
Passons à l'objet de ma visite.
Vous venez me parler de quoi?
T'as quel sujet?
Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair.
Alors, le film que nous avons... Le film, c'est pas
le
un film, pardon.
Le sujet.
Thème. Ça commence bien, c'est bien.
C'est le matin.
Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est show business.
Ouais, exactement.
C'est bon? Ouais,
exactement.
Ça c'est bon, je me suis pas trompé sur le,
le
thème.
Quand le showbiz parle du showbiz.
C'est toi qui as proposé ce thème? Pas exactement.
Comment?
On s'est perdu,
Je t'avais proposé, je crois, 2 films qui me plaisaient bien.
Et qui étaient...
Dont l'un était très clairement sur le milieu du showbiz, avec un regard un peu cynique, mais très, très paillette en même temps.
Qu'est-ce qui t'intéresse un peu là, dans cette idée?
C'est compliqué, je trouve que c'est tellement... le monde du cinéma a tellement parlé du monde du cinéma que c'est pratiquement devenu obligatoire, incontournable. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Je pense que depuis le début du cinéma, les réalisateurs ont fait des films sur le monde du cinéma. Donc je sais pas si c'est parce que les réalisateurs se regardent un petit peu trop le nombril... Ou si c'est juste parce que finalement ils parlent de ce qu'ils connaissent. Enfin, tous les créateurs parlent de leur vie, de leur monde, donc forcément ça coule de source un petit peu. Mais oui, c'est un sujet que je trouve toujours assez passionnant, parce que je pense que quelque part il y a quelque chose de très authentique, malgré les paillettes, dans ce type de film à chaque fois.
Moi ce que je trouve marrant, c'est comme tu dis, c'est authentique, mais c'est pas de la façon dont les réalisateurs voudraient le montrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Tu veux dire que c'est pas très naturaliste quoi. À chaque fois c'est toujours un peu...
Non, ce que je veux dire c'est que en fait, c'est des gars qui sont dans le showbiz évidemment, tu vois, donc les aspects sur lesquels ils veulent insister, c'est pas forcément les choses qui sont les plus révélatrices pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on découvre des choses qui leur paraissent naturelles. Alors bon, ce sera peut-être mieux d'en parler avec des exemples. Hein.
Oui, alors parce que là, je suis un peu le zéro, genre, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire
C'est toujours le matin, hein, depuis 5 minute, donc je ne suis pas encore tout à fait clair, peut-être. J'aurais peut-être dû me lever plus tôt.
Hein. Moi aussi.
Bon, écoute, puisqu'on est dans les exemples, est-ce que tu as quelques films comme ça auxquels tu penses, sans évidemment parler...
Des deux films dont on va parler, ouais. Qui vont rester secrets jusque dans 10 minutes.
Chut.
Non, alors mon film préféré sur le sujet, je pense que ça doit être Sunset... Bon, alors en plus du film dont je vais parler après, mais ça doit être Sunset Boulevard de Billy Wilder. Est-ce que tu l'as vu?
Non, je ne l'ai pas vu celui-là.
C'est pas vrai, il faut
ouais,
y aller. Ma cinéphile relou, mais Sunset Boulevard, c'est comment dire, un regard à la fois très doux sur ce qu'a pu être le cinéma dans sa grande époque, dans l'époque du muet, où il y avait des décors incroyables, où c'était le cinéma, comment dire, ogre, vraiment qui bouffe tout. Et qui est en train de vieillir et c'est magnifique, c'est sublime. Il y a beaucoup à la fois d'aigreur et de douceur. Tu vois un petit peu ce que c'est quand même.
Oui, je vois.
Je trouve que c'est vraiment un film parfait pour parler avec beaucoup d'amour de l'art, tout en étant quand même très conscient de ce que c'est. Bah, un petit peu comme le film dont je vais parler finalement, ce qui a aussi beaucoup d'amour d'art, mais beaucoup aussi de distance par rapport à ce que ça veut dire la créer par rapport à une vie plus classique et par rapport au fait d'avoir des relations de famille, être dans le monde plus banal et quotidien.
Pour parler aussi un peu de ça, alors on s'éloigne un peu, on a beaucoup parlé du cinéma, mais il y a un film de Mathieu Amalric qui date de 2010 qui s'appelle Tournée. Je sais que tu l'as pas trop aimé, toi.
Non, alors c'est pas que je l'ai pas trop aimé, c'est que j'en ai très peu de souvenirs, en fait.
Ah, d'accord.
Du coup, il me semble que c'est un joli film qui a un petit côté tranche de vie. Non,
exactement.
C'est ça
ouais.
Tu voulais le proposer, je me souviens.
Je te l'ai proposé à un moment.
Pourquoi il te plaît autant celui-là?
Moi, ce que j'aime bien, c'est justement, tu vois, là, on parle du showbiz en général, et c'est vrai que la plupart des films, comme tu dis, ils sont sur le cinéma aussi, les films qui vont parler de showbiz. Et voilà. Donc là, ça sort un peu du carcan du cinéma, parce que l'idée, c'est, comme son titre l'indique, c'est de suivre une troupe qui fait un spectacle sur une tournée. Voilà. Donc c'est Mathieu Amalric qui joue dans son film, et c'est lui qui est le tourneur, en fait, et donc il a le manager, et il a sa petite troupe de... alors c'est quoi? C'est stripteaseuse américaine, et donc il vient en France...
C'est un peu burlesque,
ouais. Faire une tournée, et donc on voit un petit peu les histoires à l'intérieur de la troupe, on voit aussi lui, ses histoires avec des anciens producteurs français... Parce que ouais, le problème, c'est qu'il a monté une petite tournée, mais que la date à Paris s'annule au dernier moment. Et donc, il dit, merde, on va pas faire une tournée en France sans aller à Paris. Donc, il essaie de renouer un petit peu avec des anciens contacts.
Et pourquoi pas, en même temps, Paris n'est pas le centre du monde.
C'est vrai. mais voilà, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté un peu tranche de vie, tu vois.
Oui, plus doux aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler du spectacle, du showbiz. On part tout de suite dans des trucs quand même très sombres et très artistes torturés. Là, pardon, je pense à Black Swan, on pourrait aller vers la danse cette fois-ci, mais c'est quand même... Ouais, enfin, je veux dire, tu signes un pacte avec le diable, quoi. T'as l'impression, quand tu vas dans le monde du spectacle. Et c'est pas forcément ça. Il y a quand même des préoccupations plus terre à terre aussi.
Voilà, exactement. Ouais, c'est ça que je trouvais assez sympa dans ce film. Puis, en vrai, je me rends compte que j'aime bien Mathieu Amalric. Je sais pas pourquoi. J'éprouve une certaine sympathie.
Oui, il a quelque chose du mec sympa.
Ouais. J'avais beaucoup aimé, alors c'est tout à fait dans un autre genre, Serre-moi fort. Je sais pas si tu l'as vu. Ben, je te le conseille.
Je le note.
Il faut pas en parler.
Pourquoi?
Non, enfin. Il faut pas raconter l'histoire, je veux dire. Parce que le film. On peut en parler.
La règle numéro 1.
Règle numéro 1, c'est ça, voilà.
Enfin, ne pas parler de.
Non, il faut dire qu'on l'a beaucoup aimé et qu'il faut le regarder. Mais il faut pas raconter l'histoire parce qu'en fait, ça se dévoile au fur et à mesure. Donc, voilà.
Oui, donc c'est vraiment un film qu'il faut pas spoiler.
Exactement.
Et ben, je note ça.
Il y a pas très longtemps là, j'ai vu Pleasure de Nina Tiberg. Je sais pas si tu penses comme
oui,
ça.
Ah oui, ouais, qui est sorti il y a 2 ans, non? C'est ça.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ouais, encore en début d'année 2021, il date, mais
tout ouais. L'industrie cinématographique aussi,
ouais,
effectivement.
C'est ça. Et c'est marrant parce que je l'ai mis en parallèle avec Boogie Nights, qui parle un peu de la même chose. Et c'est marrant de la façon dont les deux films en parlent, c'est complètement différent. Il y a un côté un peu, je sais pas si le glamour est le bon terme, mais en tout cas assez positif et assez poétique dans la façon dont Paul Thomas Anderson en parle. Alors il y a aussi, lui, il est aussi super nostalgique de l'époque. On le voit souvent dans ses films, quand il parle des années 70, début 80.
Il continue encore, c'était pas déjà son dernier film.
Licorice Pizza. Ouais, c'est un peu la même chose. Et alors que Pleasure est très 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 direct sur les soucis de l'industrie du porno.
Oui et non. Moi j'avais été un petit peu déçue quand je suis allée voir Pleasure. Je m'attendais à quelque chose d'un peu moins complaisant. Je trouve que finalement ils sont quand même assez complaisants avec l'industrie du X. On voit pas vraiment les problèmes.
Ah tu trouves ?
Pas dans toute leur violence et dans toute leur... C'est quand même très doux, c'est quand même pas...
Ah ouais ?
Ah ouais, non je trouve pas...
C'est marrant. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. Parce que justement, en fait, j'en avais entendu parler un petit peu comme ça, avant de le voir. Pas mal de personnes disaient ça, et j'ai trouvé que c'était au contraire assez dur. Il y a quand même quelques scènes où on se rend compte que, bon, les filles, elles sont exploitées. Il y a quand même des problèmes de violence. Il y a ce côté quand même marchandise à fond.
Mais ça, c'est carrément obligatoire. On peut pas faire sans, on va dire. Mais je sais pas, surtout au niveau des traitements des maladies, de ce type de trucs, enfin je trouve que c'est on se rend pas
côté-là.
Compte de à quel point ça tue un corps, quoi, enfin
OK, je vois ce que tu veux dire. À ce niveau-là, effectivement, ça va.
Même au niveau de la violence, enfin effectivement, il y a une scène, une séquence plus qu'une scène qui est particulièrement violente. Pour le reste, elle a quand même plutôt de la chance, entre guillemets.
Mais justement, moi je trouve que ce qu'on se dit au final quand cette scène arrive, c'est qu'elle a plutôt de la chance. Enfin, peut-être que c'est moi qui ai interprété comme ça. Et que finalement, cette scène-là, elle est aussi... cette séquence-là, pardon.
Oui, c'était juste pour dire que c'est pas juste une scène. C'est quand même tout temps.
Ouais, ça dure assez longtemps. Et que cette partie-là, en tout cas, elle est effectivement plus peut-être révélatrice de ce qui se passe vraiment. Bah bon, je sais pas, effectivement, c'est peut-être une interprétation.
Oui, après, c'était quand même un film très intéressant, bien shooté, bien pensé, avec une réalisatrice qui, j'espère, va continuer à tourner. C'est pas du tout pour diminuer le film, c'est juste que je m'attendais tellement à un regard plus honnête, je pense, que du coup, c'est bon.
À revoir, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi... Peut-être que si moi je le revois, tu vois, j'aurais l'impression qu'il sera effectivement assez complaisant.
Qu'on s'est défait de nos attentes, c'est peut-être plus simple d'avoir un regard plus mesuré sur un film. On s'éloigne du showbiz là quand même.
On s'éloigne du showbiz, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as du coup, alors pour revenir un petit peu dans le showbiz, à quoi tu penses toi comme film ?
C'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Et pourtant on a eu la conversation, t'en trouvais pas, je trouvais ça très drôle, je me suis dit c'est fou parce que...
C'est pas que j'en trouvais pas, c'est que j'en voulais qu'ils sortent un petit peu du lot, quoi. C'est pour ça que j'avais du mal.
Oui, je comprends. Et ton choix était très bon, parce que je l'avais pas vu, personnellement. Et bon, on en discutera après, là. On s'avance, non. Dire qu'il y en a deux qui me plaisent particulièrement. Un grand classique, All About Eve, de Mankiewicz. Même si la thématique globale du film a peut-être pas si bien vieilli, dans le sens où c'est une actrice vieillissante qui voit petit à petit se faire remplacer par une actrice plus jeune, avec la thématique vue et revue de la jalousie entre deux actrices. Bon, je pense qu'on... Mais c'était l'époque, c'était les années 50.
Ouais. Après, quand on voit l'âge des actrices célèbres aujourd'hui, tu vois, on se rend compte quand même que ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là.
Oui, mais dans le sens où c'est pas les actrices plus jeunes qui veulent absolument prendre la place des actrices plus âgées. C'est l'industrie qui n'est pas capable de laisser la place que les femmes vieillissantes, même pas vieilles, d'avoir des rôles intéressants. Enfin, surtout ça, le souci. Et je trouve que c'est plus intéressant maintenant de le voir par ce prisme que dans le film qui est vraiment la petite jeunette qui a les dents, qui raye le parquet et qui veut absolument virer Bette Davis. On ne vire pas Bette Davis, enfin.
C'est impossible.
Et non, un autre qui m'avait beaucoup plu, c'est Birdman d'Iñárritu, qui est quand même un sacré... alors il y en a qui le trouvent un petit peu gadget, le côté plan-séquence, mais je sais pas, il me touche beaucoup ce film, cette espèce de remise en question, de crise identitaire d'un acteur qui essaye de faire quelque chose qui lui ressemble plus, je trouve très joli.
Ou qui essaie de prouver aussi, d'une certaine façon, qu'il peut faire d'autres choses. Bah écoute, moi je l'avais pas trop aimé quand je l'avais vu.
Elle fait partie de ceux qui aiment pas Birdman.
Et bah, peut-être parce que j'en attendais autre chose aussi, tu vois, c'est les fameuses attentes hein, dont on parlait. Et mais là, je l'ai revu du coup, comme tu en avais parlé.
Ouais.
Et alors, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez touchant et pareil, tu vois, on voit les relations entre les artistes, le rôle de... Alors bon, évidemment, son nom m'échappe là d'un coup. Comment il s'appelle l'acteur qui joue aussi dans Birdman, qui joue son partenaire sur scène, Edward Norton.
Oui.
Voilà, ouais, le rôle d'Edward Norton avec cet acteur avec un ego surdimensionné, les relations entre chacun.
La place des critiques aussi,
ouais,
qui revient,
exact.
Qui est assez intéressante, c'est qui est intéressant dans l'un des films dont on va parler aussi. Mmh. Quel point finalement les critiques sont aussi très proches des acteurs et qu'il y a cette espèce de jeu qui se joue. Enfin bon, bref, c'est. J'ai bien aimé la scène de la critique.
Mais c'est vrai que je me suis quand même redemandé quel était l'intérêt de faire ce long plan séquence. Outre, évidemment, que c'est super, que c'est marrant, qu'il y a ce côté-là assez
excitant. Ah, de toute façon, on peut se poser la question, effectivement. Est-ce qu'il aurait été tout aussi bien avec plusieurs séquences? Oui, certainement. après... Ça donne, je sais pas, ce côté surréaliste, ce côté un petit peu...
Il y a peut-être un peu de ça,
est là. Mmh. C'est vrai que quand on est le jour d'une première, le jour d'un truc, t'as ce côté temps qui s'étend et qui du coup est bien rendu par le plan séquence, je trouve. Après oui, est-ce que c'est un peu gadget? Peut-être.
Il y a ce côté aussi peut-être un peu enfermement dans ce théâtre.
De ce labyrinthe.
Ouais, ce labyrinthe. Et c'est ça, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont géniales quand il fait des ellipses temporelles, là, en se baladant dans le théâtre. Et qu'on arrive, à un moment, on arrive le soir de la première ou de la générale.
Oui.
C'est assez génial. Mais, ouais, je sais pas. Effectivement, c'est peut-être pour essayer de mettre une ambiance. Bon. Il y a un film dont on avait parlé tous les deux aussi quand on préparait et qu'on est peut-être. Pour moi, on est obligé de le citer, c'est Les Chaussons Rouges.
Ouais.
De Powell et Pressburger. Donc, c'est un vieux film, hein, c'est 48. Il est génial.
Ouais, c'est. Visuellement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Je t'avoue, je ne l'ai pas revu pour préparer, donc je vais te laisser en parler un petit peu plus. Mais
Non, mais moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est que souvent, en fait, donc l'histoire, hein, quand même, on va dire, c'est que ça se passe dans une troupe qui prépare un ballet. Voilà, donc on a évidemment toutes les histoires au sein de la troupe, le jeune compositeur, la jeune danseuse qui arrive aussi, le vieux metteur en scène qui lui a de la bouteille et qui voit justement quelque chose dans cette danseuse, etc. Les histoires, notamment l'histoire d'amour qui va naître, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart du temps, quand on voit des films comme ça qui se passent sur scène, on a plutôt tendance à les observer du point de vue du spectateur. Tu vois ce que je veux dire? On est en dehors, on voit sur scène des choses qui se passent, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand la première arrive, eh bien, on est complètement plongé
dans la séquence.
Hein, on n'a pas le mot, mais on est plongé dans le spectacle, dans l'histoire qui se passe sur scène, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment un moment génial, je trouve.
Ouais, ouais, tu me donnes envie de le revoir, du coup.
Bon, bah écoute, tant mieux. est-ce que t'as vu The Player d'Altman?
Oui. Il était dans ma petite liste de films.
C'est un film qui est alors plus sur les coulisses et justement sur tout ce qui se trame dans ce grand studio. Je sais pas si le studio est nommé, non. On ne dit pas quel studio c'est, mais un grand studio hollywoodien où tu as donc le personnage principal qui est chargé de sélectionner des scénarios pour des films, voilà. Et le but, c'est qu'on lui dise très rapidement le scénario et lui dit oui ou non, quoi, voilà. Et donc c'est un mec qui est tout puissant, en fait, et ça parle beaucoup de ça, de la toute-puissance de ces gars-là, des producteurs et de tous ces mecs-là.
Oui, mais avec un ton un peu décalé, un peu... on les montre un peu comme des gens très suffisants, très... des sales bestioles, quoi, des guignols aussi. Enfin, c'est pas un film très très tendre avec l'industrie hollywoodienne.
Et j'imagine, alors j'ai pas trop vu de référence là-dessus, mais... J'imagine que Altman, il s'est un peu inspiré de personnages existants à ce niveau-là et que les gars, il y a des gens qui ont dû se reconnaître.
Absolument, absolument. C'est vrai que j'aurais dû noter un peu tout ça, mais oui, ouais, clairement.
Bon, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de films. Je sais pas si ça avance vite hein, quand même. Je sais pas si on va tous les citer.
Non, on va révéler les films de la baston.
Pour la baston, ouais. T'es prête, on attaque ?
C'est parti.
Allez, à toi l'honneur.
On commence par quoi ?
Exposez votre proposition.
C'est parti.
Alors, Léo, quel film as-tu choisi pour nous parler de show business dans cette baston ?
Le meilleur film pour parler de show business, selon...
Ah, ça commence !
Déjà, on balance. Selon moi, c'est All That Jazz, traduit par Que le spectacle commence, de Bob Fosse. Voilà. On commence bien, on commence avec du lourd,
on commence avec la
Palme d'Or de 1980, quand même, c'est pas rien. Donc, alors qu'est-ce que c'est All That Jazz ? On suit un chorégraphe, Joe Gideon, pardon pour l'accent, qui a déjà bien une quarantaine, bientôt 50 ans, et qui est obnubilé par son travail. Au moment où on le retrouve, il est complètement pété aux enfêtes, il fume tous les jours, il a une hygiène de vie déplorable. Mais c'est ce qui lui permet de tenir pour monter à la fois une nouvelle chorégraphie sur Broadway et finir le montage de son film qui prend des mois et des mois parce qu'il n'est pas satisfait. Donc grosso modo, ça va être ça le film. On voit un mec surmené mais passionné par ce qu'il fait, passionné par le monde de la danse, passionné par le cinéma en général, enfin bref, passionné par la scène et qui est dévoré par ça. C'est à côté de ça un mec totalement addict au sexe. Il enchaîne les rencontres sur rencontres, mais toujours de manière très désabusée. Et il a totalement délaissé de côté son ancienne femme, sa fille, sa copine actuelle. Enfin, vraiment, un peu le cliché du mec du showbiz.
Ouais, c'est vrai.
Sauf que finalement, c'est tellement bien écrit que le cliché prend sens et bien écrit quelque part, finalement. À cause de ce surmenage, il fait une crise, une heart attack, enfin une crise cardiaque, pardon.
Ça arrive.
De temps en temps, les mots viennent en anglais. Et il se retrouve à l'hôpital, et pendant tout ce temps, il dialogue avec l'ange de la mort, interprété par Jessica Lange, absolument parfaite dans ce rôle, une toute jeune Jessica Lange avec son beau visage angélique, des scènes hors du temps magnifiques, je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais,
toi.
Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais.
Sublime. Et on a ensuite toute la fin où il est à l'hôpital en train de subir les différentes chirurgies, savoir un petit peu négocier avec la mort, parce qu'il comprend qu'il est sur la fin et qu'il y a un petit peu le bilan de sa vie.
Ouais, c'est ça qui est assez génial, moi, je trouve, dans le film, c'est justement que c'est pas un truc qui se veut très réaliste, très plan-plan, c'est au contraire très... symbolique, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a cette allégorie de la mort comme t'as dit, il y a des passages un peu oniriques, effectivement quand il se fait opérer, il est aussi en plein délire et il voit
la seule chose qu'il connaît finalement, il voit
exactement.
Des numéros de danse sur Broadway, parce que de toute façon c'est toute sa vie depuis qu'il est né et il est incapable de considérer le monde autrement que par le spectacle, par la danse, et c'est très beau.
Il y a un montage qui est assez fou, je trouve, justement, avec tous ces allers-retours entre ces différents moments de sa vie. Alors, c'est vrai qu'on comprend au fur et à mesure du film que sa discussion avec l'ange de la mort, c'est plutôt à la fin, quand il est en train de se faire opérer. Mais en fait, ça commence dès le début. Et donc, on a des allers-retours un petit peu avec ces discussions où il dit un peu ce qui se passe, etc.
Ah, je sais pas, par contre, si on peut considérer que cette discussion ne correspond qu'au moment où il est à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il est déjà tellement parti et déjà tellement... quelque part, il se sent proche de la mort et un petit peu de cette pulsion de mort, ce qui expliquerait aussi ses pulsions de création, ses pulsions érotiques, etc.
Il y a quelque chose de... C'est vrai qu'on peut le sentir comme ça.
Il est tellement hors du monde et c'est quelque chose que je trouve assez passionnant. Bon, avant de commencer à parler du film en tant que tel, en termes de choix de mise en scène, je trouve que c'est plutôt bien de rappeler quand c'est pratiquement une autobiographie. Parce que Bob Fosse, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins, mais pour ceux qui le connaissent, c'est d'abord un chorégraphe de renom qui a marqué son époque avec ses chorégraphies très fluides, qui mélange quelque chose de très classique mais en même temps de très moderne. C'est le créateur du musical Chicago.
Mm-hmm.
Pas du film, attention, du musical, que je trouve personnellement parfait aussi. J'étais allée le voir à Londres il y a quelques années et c'était assez cool. C'est dommage qu'on ne fasse pas plus de musical en France d'ailleurs, à Paris. Mm. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, Mogador, parce qu'on enregistre pas très loin de Mogador, c'est pour ça ça que je trouve ça rigolo. Il n'y a pas grand chose d'autre hein, à Paris. Bref, alors pour monter ce film, à la base, il avait envie de parler de cette espèce de mélange de création et de mort en même temps. Oui, soyons joyeux, soyons dans le vif du sujet. À la base, il voulait adapter un livre qui s'appelait Ending.
Mais justement, ce qui lui avait donné envie de traiter ce thème, c'est que il a eu cette crise cardiaque,
oui,
vraiment.
Voilà, j'allais en venir. Il a eu, voilà. En fait, au lieu d'adapter donc ce livre Ending de Ilma Volitzer, ce qu'il trouvait ça trop sombre, non, parce que c'est vrai que All That Jazz, c'est très joyeux, soyons honnêtes. Bah, oui, quelque part, oui.
Il y a un traitement joyeux, en tout cas, du sujet.
Mais qui laisse un petit peu amer, parce que tu sais que c'est très grave ce qui se passe à l'écran. Et du coup, c'est dit, plutôt que d'adapter ce livre, j'aime pas le scénario qu'on a écrit, ça me plaît pas.
Je vais parler d'un sujet que j'aime bien, voilà, je vais parler de moi.
Je vais parler de moi. Ah. Du coup, il se rappelle de la première crise cardiaque qu'il a fait au moment où il était en plein surmenage, il était en train justement de créer Chicago et de finir le montage de son film Lenny. Mm-hmm. Et il s'est dit, je vais parler de ça, je vais parler de moi, effectivement.
Je vais parler de moi, attends.
Parler de moi, c'est quand même vachement bien.
J'ai un bon sujet, moi.
Et ceci dit, il n'a pas tort. C'est vachement bien. C'est quand même son chef-d'œuvre, All That Jazz. On va pas se mentir. Littéralement, ce qu'on voit à l'écran, c'est donc ce chorégraphe mi-réalisateur qui est surmené par ses journées entre la création de la chorégraphie et le montage de son film. Voilà, la petite histoire,
la petite remise en place, quoi.
La petite histoire production du film.
C'est ça. Et donc, le montage, moi je trouve qu'il est mortel. Et justement, ce qui m'a plu, c'est qu'on retrouve un peu de ce que je disais dans Les Chaussons Rouges, quand il arrive notamment au moment du montre à ses producteurs. Alors c'est encore dans une période de répétition, mais un des... alors je sais pas comment on dit, une séquence du... non, un numéro du spectacle qu'il est en train de faire.
D'accord, le R Erotica, tu parlais ça.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc ce moment-là, il est assez fou, quoi, parce que justement, à nouveau, comme je disais pour Les Chaussons Rouges,
c'est totalement immersif,
vraiment dedans.
On est dans la chorégraphie, on est dans le... cette séquence. De toute façon, toutes les séquences de danse sont absolument fabuleuses et sont en général insérées dans la narration du film.
C'est ça. J'avais vu qu'il voulait éviter de faire comme dans les vieilles comédies musicales où d'un coup, en marchant dans la rue, le mec se met à chanter et qu'il y ait une certaine logique, en fait.
Oui, que ce soit possible, que ce soit réellement des chanteurs, des danseurs. Quand j'ai vu qu'il voulait, par contre, faire des numéros un peu à la Bugsy Berkeley, je dis pas l'impression. Alors, j'en ai toujours pas vu ces films. Tu sais, ce réalisateur des années 30, où on voit plein de danseuses, par exemple, dans l'eau, comment on appelle ça, le fait de danser dans l'eau, là,
la natation synchronisée.
Exactement, merci. Avec des tenues pas possibles et ces chorégraphies hyper élaborées.
Ah, ok, je vois ce que c'est.
Non, mais j'en ai toujours pas vu, j'ai honte parce que ça fait hyper longtemps que c'est dans ma tête et que je trouve les séquences fascinantes. Et en fait, il avait envie d'avoir ce côté un petit peu pop et waouh qu'on peut avoir dans ses films.
Ouais.
On parlait de quoi?
Des insertions.
Et justement, les numéros de danse, il y a un numéro que je trouve passionnant et pourtant c'est pas le plus réputé, le plus connu, le plus waouh. C'est celui où il est en plein doute, il sait pas où va sa chorégraphie et il décide d'aller voir son ancienne femme qui va être danseuse principale de la chorégraphie. Et ils ont cette espèce de petite discussion. Elle est en train de répéter dans une salle toute seule avec le pianiste. Mmh. Et ils ont une conversation à la fois pour l'aider à... Bref, une conversation entre eux, un chorégraphe, son ancienne femme. Et elle continue de danser pendant qu'ils discutent. Et c'est extraordinaire. De toute façon, la danseuse Leland Palmer a un corps extraordinaire. C'est une danseuse géniale. Mais du coup, toutes les émotions qu'elle souhaite faire passer dans ce dialogue passent à 200% dans la manière qu'elle a de danser. Et c'est tout con. C'est pas le numéro le plus élaboré, mais c'est extraordinaire.
Mmh.
Voilà. parce que je trouve que parfois c'est les numéros les plus simples qui sont les plus touchants, quelque part.
Alors qu'à l'inverse, effectivement, la scène finale va être volontairement kitsch et exagérée.
Cette scène finale, ça m'arrive des fois de la regarder juste pour la regarder, parce que c'est une séquence qui dure quand même bien 20 minutes.
Ouais.
Et c'est... Comment décrire cette séquence? C'est une folie, il est sur son lit de mort, on comprend que l'opération foirée, quoi. C'est pas possible, il va pas survivre. Et il s'imagine dans un espèce de talk show très populaire à la télé, et il se met à danser et à chanter avec le présentateur, et il est entouré des personnes de sa vie, des femmes
dans le...
mais qui sont à la fois dans le public et aussi les danseuses, parce que les deux danseuses en fait, c'est les deux femmes de sa vie, quoi, grosso modo, dans des costumes extraordinaires. Enfin, comment dire, les danseuses ont des justaucorps avec des fils rouges et bleus pour représenter les veines et les artères. Je suis fascinée par ce type de costume, réellement. Je peux pas
trouver
les mots.
C'est une demande pour ton anniversaire que tu fais en même temps, là, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Je sais pas quand je le porterai, c'est quand même pas facile à porter tous les jours, mais oh, je trouverai bien une petite occasion.
Bah oui. Et moi, c'est, bah, je l'ai dit, pour moi, c'est la partie où ils font Take Off With Me érotica. Là.
Oui, bah, du coup, tu commençais à en parler et puis t'as, je t'ai un peu coupé.
Oui, non, mais bon, après, je pense qu'il vaut mieux la regarder, mais j'aime bien ce côté très immersif. Et il y a un truc qui me fait rire, c'est que pour simuler ce qui va se passer sur scène, à un moment, ils mettent donc une machine à fumer quand même, et ils ont des lampes de poche comme ça. Et...
Oui, ouais, c'est très très drôle.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce côté ridicule de lampe de poche qui va éclairer les danseurs, mais en même temps, quand on voit les danseurs, ils sont pas éclairés avec des lampes de poche. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est comme si c'est ça, ce côté immersif aussi, c'est que on sait bien que les lampes de poche, elles vont pas éclairer les gens comme ça. Mais on est déjà projeté.
En fait,
quoi.
Oui, c'est ça, on est déjà dans le regard de ceux qui conceptualisent la séquence et qui savent qu'une fois que ce sera prêt, que ce sera beau, que ce sera machin, il y aura des vrais projecteurs.
Exactement.
Et du coup, on voit déjà les vrais projecteurs alors qu'ils n'existent pas dans la salle de répétition. Quoi.
Ouais, tout à l'heure, je parlais vite fait du montage. Il y a aussi un petit moment qui revient souvent, c'est la routine matinale.
Oui, avec le morceau de Vivaldi.
Exactement, il se met toujours le même morceau. Il se dit toujours la même petite phrase à la fin, it's showtime, folks.
Yes.
Et on voit donc la routine, c'est en fait, Alka-Seltzer, cigarette, goutte dans les yeux aussi.
Ça, je comprends, faut que je m'en achète des gouttes dans les yeux aussi. Alors, parce que. Aucun intérêt, mais dans mon nouveau travail, j'ai vraiment besoin de gouttes dans les yeux et ça fait au moins 2 semaines que je me dis oh là là, faut que je m'en achète. Et du coup, là, je vois le film où il en met absolument genre 5 ou 6 fois dans le film, genre je voulais lui piquer quoi.
Et pas les en fait, non ?
Ah non, les en fait, pas mon truc.
Et ce qui est marrant, c'est que la scène est à chaque fois très proche, mais en même temps un tout petit peu différente.
Elle est, ouais,
en et plus, on sent que c'est de pire en pire quand même.
C'est, ouais, plus on avance, exactement, plus on avance dans le film, plus ça devient flou, limite. Enfin, le son devient plus comment dire, éloigné. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer. Et ce qui est un peu petit clin d'œil, un peu rigolo, il me semble que c'est la musique qui est utilisée dans Orange Mécanique. Assez fréquemment,
oui.
Le film de Vivaldi. Ouais. Et un petit peu plus loin dans le film, il fait un petit clin d'œil à Kubrick. Voilà, c'était le petit moment rigolo. Kubrick, il a beaucoup aimé ce film d'ailleurs. Donc,
Et c'est ce que j'avais noté, il avait dit que c'était le meilleur film du monde.
Oh, ouais, enfin, en même temps, Kubrick, je pense qu'il est, dans la demi-mesure.
Bah, c'était en sortant de la salle, il s'est emballé.
Oui, ouais.
On peut peut-être parler aussi vite fait, alors je sais jamais comment on prononce son nom, de Rob Schneider. J'avais dit que je savais pas comment prononcer son nom. Hein. Tu prononces comment toi, Rob Schneider?
Schneider. Non, il n'y a pas de N.
Il n'y a pas de R. Ce serait plus facile à. On saurait comment prononcer.
Schneider, effectivement, qui est un choix absolument. Le meilleur choix pour ce rôle.
Mais c'est quand même un choix très étonnant parce que c'est plutôt un gars qu'on voit dans des rôles plus
taciturne,
terre à terre.
Ouais.
Taciturne aussi.
Exactement, mais c'est ce que Boff aussi expliquait. Il disait, mais je comprends pas pourquoi cet acteur est toujours cassé dans ce type de rôle, alors que quand on le rencontre, il a quelque chose de très charmant et de très beaucoup plus. Alors là, je mime, ça va pas vous aider. Mais beaucoup plus. Fluide, enfin dansant, enfin plus. Quel mot tu utiliserais ? Aide-moi.
Je sais pas. Parce que je ne l'ai pas rencontré en vrai. Non, mais...
tu vois ce que je veux dire ?
Plus, je sais pas, affable peut-être ?
Oui, peut-être. Mmh. Peut-être.
Ouais.
Et du coup, lui donne un petit peu l'un des rôles de sa vie quand même, avec All That Jazz. Mais ce que je trouve aussi passionnant, c'est qu'il arrive à avoir... Ce qui me plaît beaucoup dans sa manière de l'interpréter, c'est que, d'un autre côté, il a quelque chose de très effacé. Il a souvent un regard un peu vide, dans le sens où il est passionné par sa vie, effectivement, mais c'est devenu quelque chose de tellement automatique, j'ai l'impression, ce qui renvoie avec les scènes du début, les scènes de It's Showtime, folks, qui sont très répétitives. Et ben, du coup, il subit un peu sa vie aussi, quelque part. Enfin, c'est devenu des automatismes. Il n'y a plus... je veux dire, il couche avec des filles, mais il se souvient plus de leur nom, il s'en fout. Il est, enfin ouais,
il a un côté très répétitif.
Il a un côté répétitif et il a un côté presque reptilien dans le côté. Bon, il fait les choses parce que de toute façon, il a pas le choix, il en a besoin pour survivre et parce que c'est le sens de sa vie, c'est comme ça. Mais justement, il y a plus de sens en fait. Il fait les choses parce qu'il faut les faire.
Ouais, il y a un peu ce côté-là, effectivement.
Je sais pas si t'as ressenti ça aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Il est un peu embarqué, quoi, dans sa vie.
Ça y est, c'est parti, mais il n'y a plus forcément la réflexion et le sens derrière.
Moi, j'ai été étonné aussi. Enfin, après, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai trouvé qu'il dansait pas mal, Roy Scheider, non ? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Mais absolument.
Il n'a pas des grands numéros, mais il a quelques scènes, notamment quand il monte des trucs aux danseurs, etc. Il y a un moment aussi où il est un peu tout seul, là, dans l'hôpital, et on le voit un peu marcher en dansant et tout. Je me suis dit, ben, tiens, je ne savais pas.
Oui. Bon, je pense qu'il a été bien coaché, mais justement, c'est ce que je disais, ça fait partie de qui il est, apparemment. C'est pour ça que Fossi l'a choisi. Il a cette fluidité dans le corps, cette, comment dire, cette... voilà, je n'ai toujours pas le mot, donc désolée, je reste bloquée sur... quand on est... Ah, cette souplesse, peut-être.
Ah,
cette souplesse naturelle qui fait... qui fonctionne vraiment bien. Après, rien à voir avec les trois danseuses du film.
Non,
quoi.
Bien sûr.
On est d'accord. De toute façon, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment son numéro dédié. Il les appare un petit peu à la fin, mais il ne danse pas vraiment.
Il ne danse pas vraiment, non.
Voilà. Mais c'est ce qui n'est pas grave du tout.
Ouais, effectivement. Il y a aussi... bon, évidemment, je regarde l'heure en même temps. Je me dis qu'on pourrait en parler longtemps de ce film. Il y a aussi quelques petites piques au monde global du showbiz, on va dire.
Avec cette séquence magnifique de cynisme où il vient d'aller à l'hôpital. On ne sait pas s'il va survivre ou pas, c'est pas clair encore. Et donc il y a une réunion entre les producteurs et les assureurs du film qui leur disent, bon, écoutez, si Clams avant telle date, eh ben, en fait, on vous rembourse le million de dollars pour les assurances et grosso modo,
vous gagnez l'argent,
vous allez récupérer une telle somme, machin, si il meurt. Et c'est affolant. C'est effrayant. C'est bref, voilà.
Et puis il y a aussi une scène qui est, enfin deux scènes même, qui sont assez marrantes où ils vont voir un metteur en scène. Il y a un producteur qui va voir un metteur en scène au cas où pour remplacer. Et c'est marrant parce que ils disent jamais franchement le mot remplacement. Je sais pas si t'as remarqué. Ils parlent, ils font ah tu sais là il est à l'hôpital, ce serait bien si tu jetais un coup d'œil quand même au scénario pour me dire ce que t'en penses, voilà.
Oui, et puis on sent que le réalisateur est quand même bien content de.
Et lui il attend que ça, il fait oui.
Ouais,
oh bah moi tu sais je suis très occupé, bon après.
Mais en même temps je peux le mettre entre deux trucs.
Voilà, je peux jeter un coup d'œil. Et après quand il se revoit, oh là là tout le travail que t'as fait c'est vraiment sympa. Mais tu sais finalement il est sorti de l'hôpital. Oh, j'en suis content.
Le fameux petit jeu du showbiz.
Et comme tu disais, donc à un moment, il décide de faire un film sur lui-même et il a procédé comme il aurait fait pour... je parle de Bob Fosse, pardon.
Oui, j'avais compris.
Mais je me suis dit que j'étais pas clair. Il a décidé de procéder comme si... il faisait un film sur n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire qu'il a enquêté sur lui-même. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
Non, je n'ai pas entendu parler de ça.
Et donc, il a interrogé les gens, etc.
Sur la perception qu'ils avaient de lui.
Exactement. Et aussi, je crois que cette scène-là de remplacement, bon, évidemment, il n'était pas là et il a imaginé la façon dont ils ont discuté.
Oui.
Mais il a su qu'ils avaient contacté quelqu'un en cas de mort pour le remplacer.
Ceci dit, enfin là, on le fait avec notre regard de personne empathique, etc. Mais c'est un business. C'est normal aussi. Enfin,
ben oui.
Forcément.
Ouais. Et apparemment, il a été aussi discuté avec des anciens danseurs et danseuses qu'il a eus pour savoir comment il était, etc. Parce que, alors écoute, moi je vais...
Mais est-ce qu'il est la bonne personne pour avoir ce type d'enquête ? Enfin, c'est pour ça que je trouve ça un peu étonnant. De toute façon, les gens ne vont pas être
justement. D'habitude, je regarde un peu, mais... mes points négatifs pour la fin. Mais là, je suis obligé d'en parler tellement c'est intrinsèque au film.
Ouais.
J'ai vu le film, je me suis dit, ouais, il est génial. J'ai adoré, comme on disait, moi j'adore tout ce type de mise en scène, etc. Et après, je me suis un peu renseigné sur le film et j'ai vu que c'était autobiographique. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce melon, quoi.
Ouais, mais d'un autre côté, alors faut voir les deux pièces, les deux côtés de la pièce. Effectivement, ça peut avoir un côté où le melon, mais d'un autre côté, il est très honnête parce que beaucoup de créateurs parlent d'eux-mêmes via des personnages, via des situations, mais finalement, c'est aussi une question d'ego. Alors que là, il le fait de manière très honnête, quelque part.
Moi, j'ai un problème, c'est que outre le fait que le film, c'est l'histoire d'un génie, hein, c'est que tout le monde l'aime.
Ah,
et,
non.
Et que, en fait, c'est ça, il est fâché, en quelque sorte, avec son ex, il s'embrouille avec sa copine actuelle, sa fille, elle est déçue, un moment, parce qu'il la plante, là, dès le début du film, il devait passer le week-end avec elle, il fait « Ah bah non, il faut que je bosse
». Ouais, mais donc, est-ce que...
Mais au final, il l'aime toujours, il lui pardonne tout, ils ont toujours envie de lui, d'être avec lui, etc.
Je sais pas,
il y a toujours ce côté-là.
Pardonne, c'est qu'ils sont aussi obligés, dans le sens où la mère, elle est danseuse dans sa prochaine chorégraphie, elle est obligée de rester avec, quelque part. Et puis, il est talentueux,
elle est talentueuse. Elle peut aller bosser avec quelqu'un d'autre.
Oui, mais s'il est talentueux, et puis surtout, elle connaît son fonctionnement. Enfin, il y a aussi un peu de
ça. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que, justement, on a tendance à tout lui pardonner, tu vois.
Je ne sais pas si c'est pardonner, c'est juste quelque chose de très pragmatique, finalement. C'est leur travail. Donc,
mais tu vois, sa copine actuelle, elle pourrait se barrer. Surtout que, des fois, elle essaie de le rendre jaloux en appelant des gars devant lui, alors que ça se voit que... Enfin, bon... Et lui, il la manipule à mort. Moi, je trouve que c'est quand même l'histoire d'un connard. Hein,
oui, c'est ça. Alors et là, je trouve qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus.
Et
quand
je trouve qu'il est assez complaisant avec lui-même sur le fait que je suis peut-être un connard, mais c'est quand même moi qui ai raison parce que vous voyez, tout ce que je fais, c'est génial et les gens, ils m'aiment toujours.
Je ne sais pas s'il veut se donner raison. Moi, je n'ai pas du tout cette sensation. J'ai plus l'impression que c'est déjà c'est clairement un addict avant que ça existe vraiment, avant qu'on le psychiatrise quelque part. Et c'est plus ça qui montre en fait, c'est un mec qui est addict effectivement à l'alcool, machin, aux femmes et surtout addict au showbiz. Et je pense que les autres, en fait, quelque part, ils passent après et c'est tout. Sauf que ils sont obligés de rester dans le sillon parce qu'ils font partie du monde de la danse, ils font partie du monde du cinéma, ils font partie...
Ouais, mais c'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est quand même un connard qui profite de sa position. Je suis un peu choqué par ça, quoi.
Il le fait... Enfin, j'ai pas envie de l'excuser, mais il le fait pas exprès dans le sens où c'est une addiction. C'est pas qu'il veut profiter, il se dit pas « oulala, j'ai envie d'avoir telle position », machin, alors que c'est quelque chose qu'on pourra, je pense, beaucoup plus reprocher au personnage du film d'après, mais lui, beaucoup plus consciemment. Dans Old Chas, on voit surtout un mec qui n'existe pas dans le vrai monde, en fait.
Mais tu vois, il y a quand même ces discussions avec l'ange de la mort, comme on disait, où il dit clairement qu'il profite des femmes, tu vois. Il dit « ouais, je t'aime, je le dis quand il faut ». Elle fait « mais tu le penses ?» Pas forcément, non. Il faut le dire à ce moment-là, parce que c'est le moment où ça va attirer, rapprocher la fille
coup,
à lui.
Quelque part, c'est être très honnête.
Ah oui, il est très honnête, mais il est très honnête dans le fait qu'il est malhonnête.
Oui, mais pour arriver, c'est le principe de l'addiction, pour arriver à son but, à sa fin, t'es obligé d'utiliser des stratagèmes pour récupérer l'espèce de plaisir rapide que l'addiction offre.
Ouais.
Du coup, ça va avec, c'est juste pour pouvoir coucher avec une fille, il faut lui dire à tel moment-là, et c'est une de ses addictions, et il va le dire à tel moment-là. Mais du coup, il est honnête, il fait pas semblant finalement de
non,
de se dire,
je vois ce que tu veux dire par là, mais je pense qu'il pourrait être quand même... un peu plus objectif, tu vois, ou un peu plus... Il pourrait se rendre compte quand même de ça, de façon un peu plus honnête. Je sais pas si c'est le bon terme, honnête, mais... Je trouve que ça l'arrange aussi dans un sens de se laisser embarquer là-dedans, sur ce côté-là, tu vois.
Ah, je sais pas si ça l'arrange, parce que il finit quand même pas très très bien,
oui.
le bougre.
Non, se laisser embarquer dans ses addictions et tout ça, ça l'arrange pas. Mais de traiter les gens comme ça...
C'est un problème, de toute façon, c'est... Maintenant, l'addiction,
effectivement, si tu le vois sous...
C'est comme une maladie.
Exactement, ce que j'allais dire. Si tu vois tout ça comme une pathologie, c'est un gars qui a besoin d'être soigné, sans doute.
Mais je trouve que du coup, le plus grand problème, c'est que chez d'autres types d'addictions, on va vouloir le soigner parce que ça va être plus problématique. Et à partir du moment où ça touche à l'art, effectivement, c'est quelque chose qu'on va considérer non pas comme une pathologie, mais comme un don. Et là, je vois où peut être le problème. c'est que du coup, il va forcément rester bloqué là-dedans, quoi.
J'avais lu un truc, une petite anecdote. C'était une interview d'un chanteur. Alors, je me souviens plus son nom. C'était un mec qui était pas très connu, un Américain qui avait une réputation un peu rock'n'roll. Et donc, le mec qui l'interview lui pose la question, justement, s'il a l'impression d'être rock'n'roll. Et lui, il fait, mais moi, j'ai horreur de ce terme-là. Et il dit, un mec qui fout une bagnole dans une piscine, s'il est plombier, c'est un gros con. S'il joue de la guitare dans un groupe, c'est trop rock'n'roll.
Oui, non, mais...
tu vois. Et c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est que, effectivement, le mec, il se drogue, mais bon, c'est un danseur, un réalisateur, donc c'est normal.
Après, oui, je comprends, sa relation aux femmes, c'est toujours peu difficile à regarder. Mais d'un autre côté, on n'est que de son point de vue à lui. Mmh. Donc ça va être difficile de projeter ce qu'elles peuvent penser, peuvent faire, peuvent dire. De toute façon, on ne sait pas exactement ce qu'elles font. On n'a que les moments où il est avec elle ou que ce qu'il imagine d'elle. Si ça se trouve...
Ah oui, bah oui.
Dans leur vie, il y a plein d'autres choses. Et très certainement. Okay. Sauf qu'on ne le verra pas, tu vois.
Alors, j'ai quand même une scène. Un moment, il est à l'hôpital et il se retrouve dans la chambre d'une vieille dame qui est en train de souffrir. Tu te souviens de ce moment? Et là, il la prend dans ses bras, il l'embrasse et la vieille dame, elle oublie toutes ses souffrances. Le mec se prend pour Dieu, quand même, à ce moment-là.
Ah bah là, oui, mais il est totalement en train de délirer.
Il est totalement en train de délirer.
Mais, ça, mais on va pas... Ça, par contre, son côté égotrip, égomaniaque, ça, il n'y a pas de doute du tout sur la personne.
En fait, tu vois, quand j'ai vu le film la première fois... Enfin, oui... Pour le dire comme ça, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh, c'est génial. Quand j'ai vu que c'était autobiographique, ça m'a un peu gêné, quoi.
Et c'est peut-être aussi la force du film, d'ailleurs. Faut qu'il soit un peu gênant. C'est pas non plus un film qui se regarde comme ça. C'est pas une jolie petite comédie musicale, bien mignonne.
Bien sûr. Écoute, on a beaucoup parlé du film déjà, même si je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites et qu'on pourrait en dire encore, encore et encore. Est-ce qu'il y a un petit point sur lequel tu veux revenir particulièrement avant de passer au film suivant ?
Non, mis à part dire que les séquences dansées sont absolument extraordinaires, mais ça je l'ai déjà dit trois fois, mais comme ça on finit sur un bon point.
On s'excuse, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, mais on va enchaîner.
Oui, oui. Le rapport à Fellini, rapport... Bref, on continue.
On continue.
Et maintenant, à toi.
Bon alors écoute, je te fais une proposition.
Vous feriez pas ça?
Je vais me gêner.
De mon côté, pour parler de show business, j'ai choisi de parler de A Face in the Crowd, un homme dans la foule d'Elia Kazan, un film de 57. Voilà. Alors, un peu comme je disais dans l'intro, quand j'ai parlé de tournée, je voulais essayer de trouver un film un peu différent ou qui parle d'un milieu un peu différent. Et là, c'est un film qui parle quand même pas mal des médias, finalement, de la télé, de ce côté showbiz-là aussi. Ça fait partie du showbiz, hein, quand même.
Oui, quand même. Quand même.
Ça se passe dans les années 50, donc le film est de 57, donc c'est un film qui est contemporain à la sortie du film. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui va être découvert par Marcia Jeffries, qui anime une petite chronique dans l'Arkansas qui s'appelle « Un homme dans la foule ». Voilà, et donc elle
va... Face in the crowd.
Face in the crowd, voilà.
In English, in the text.
Et donc elle va à la rencontre un peu des gens du quotidien pour leur faire dire quelque chose, raconter une histoire, chanter, etc. Et donc là, elle va dans une prison pour trouver quelqu'un et elle rencontre donc Larry Rhodes, qu'elle surnomme Lonesome Rhodes, qui va lui chanter une chanson et qui s'avère être drôle, affable et capable d'improviser, etc. Charismatique, en fait.
Exactement, le mec a du bagou.
Le mec a du bagou, c'est très bien résumé. Et donc, elle va se dire, mais en fait, il est trop bien ce gars-là. Je peux pas juste faire une petite chronique comme ça, vite fait, sur lui. Il faut qu'il vienne travailler à la radio. Donc, elle lui propose un créneau dans la radio où elle travaille. Et pour résumer, ça va être le début d'une grande ascension pour Rhodes, qui va aller très très loin. On va évoquer ça au fur et à mesure, je pense. Mais... Ouais. Alors, c'est tiré d'une nouvelle de Bud Schoenberg. J'imagine que ça se prononce comme ça.
Alors là, je te reprendrai pas, on va dire que ouais.
Il a fait lui-même l'adaptation du scénario. On peut imaginer que le texte originel n'est pas trop trahi. Et donc, en fait, comme je disais, ça va être la longue montée de Rhodes, à la fois dans la popularité, parce qu'il va devenir de plus en plus populaire, il va aller dans des médias de plus en plus grands, dans une grande radio à Memphis, et puis après, il va aller à la télé, à New York, voilà.
À se rapprocher des politiciens.
Et à la fois, c'est aussi une montée dans... mais dans la découverte de qui il est vraiment.
Je sais pas si on, enfin j'espère pour lui qu'on peut pas le résumer comme ça, parce que sinon ça va être compliqué.
Il va aussi être un peu, comme tu disais pour le personnage du film précédent, embarqué un peu là-dedans. C'est sûr que son ego va être de plus en plus boursouflé et il va être embarqué là-dedans.
Oui, mais si on peut, on fera peut-être le comparatif après, mais autant
bien sûr.
Chez Joe Gideon de Honda Jazz, c'est une addiction, vraiment, il peut pas faire autre chose, c'est comme ça. Autant chez Lonesome Rhodes, bon, il ferait autre chose, ce serait pareil pour lui, quelque part. C'est beaucoup plus un opportuniste.
Exactement. Il est très, très opportuniste. Et c'est ça dont on se rend compte, c'est que au début, il passe vraiment pour un mec sympa, proche du peuple en plus, parce que à chaque fois qu'il a l'occasion de parler dans un média où il arrive pour la première fois, il va parler des pauvres gens. À un moment, il va faire une collecte pour une dame dont la maison a brûlé.
Oui, il a des phrases où tu sens qu'au début, c'est plus intéressant pour lui de se rapprocher du petit peuple, on va dire. Mais enfin, tu sens tout de suite que c'est ouais, c'est par intérêt. Enfin, ben, après, j'ai eu du mal dès le début avec le personnage. Moi, personnellement, je sais qu'on est enfin, il est censé être représenté comme un mec sympa au début, genre. Mais je me méfie beaucoup des gens qui ont cette espèce de charisme un petit peu... extraverti, enfin, exponentiel, enfin exponentiel, pas du tout. On n'est pas en maths. Parce qu'en général, ça cache des trucs beaucoup plus sombres et effectivement, c'est là où le film va nous amener petit à petit.
Mais justement, c'est ça que je voulais dire par le fait qu'on le découvre au fur et à mesure, c'est que au début, il y a des choses qui font qu'on l'air naturel. Et puis, finalement, on apprend que bah, il a manipulé les gens. Et quand on revoit le film ou quand on y repense, on se dit « Ah ouais, mais dès le début !» Parce qu'on se rend compte que dès le début, il va dire « Ok, je veux bien chanter dans ton micro, mais je sors de prison alors. »
Oui, oui, ce qui est, en plus, ce qui n'est pas si bête.
Ce qui n'est pas si bête.
Il est en prison, il veut sortir de prison. Là, à ce moment-là, ça ne touche que lui, quelque part. Le problème, c'est quand ça va toucher d'autres personnes autour de lui.
On se rend compte aussi à un moment quand le manager, justement, j'ai dit qu'il allait dans une radio à Memphis. C'est une radio ou une télé d'ailleurs ? Je dis une bêtise, c'est une télé ?
Je sais plus exactement à quel moment il passe la radio à la télé de toute façon. Ce qui est un petit peu en fait le souci du film, je trouve, c'est que on parle du spectacle, mais finalement on le voit pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de scènes mythiques.
Ça va pas être la même chose effectivement par rapport à All the Jazz. On va pas rentrer dans le spectacle, mais parce que ce qui est plus
très extérieur,
parce que ce qui est plus intéressant finalement, c'est les coulisses. On se rend compte de donc tous les petits jeux. Donc très vite, il va devenir aussi l'égérie de Marc pour des pubs. Il y a ça, et puis aussi, il va se mêler de politique aussi à un moment.
Oui, c'est ça. Il va être choisi pour faire la communication de campagne d'un sénateur, qui est un petit peu l'un des points de non-retour pour le personnage féminin, parce que là, on a évoqué que le personnage masculin, qui est donc le personnage central, mais je trouve que le personnage féminin est tout aussi important, voire plus.
Je voulais justement y revenir plus tard, mais vas-y.
Mais on peut finir sur ton propos, il n'y a pas de souci. On verra après.
Eh bien, je ne sais plus quel était mon propos.
Effectivement, le fait que pour un film qui parle de showbiz, il n'y a pas beaucoup de spectacles en fait. Alors effectivement, les coulisses, c'est tout aussi important, voire plus important dans ce film, sauf que je trouve ça dommage. On évoque son côté extraordinaire, son charisme, etc. Et au final, on ne le voit pratiquement jamais en action. Ce qui a un côté un petit peu frustrant, je trouve.
Ouais, mais on voit la réaction des foules.
Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Tu dis, bon, il y a des foules en délire, il a des groupies, etc. Sauf qu'au final, pourquoi ? Quel est le...
Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça m'a pas gêné, moi, c'est marrant.
Ah ouais, si à un moment, je me dis, à quel moment on va le voir faire un sketch ? À quel moment on va le voir vite fait un moment, sauf que finalement c'est pas si génial, et du beau pourquoi tout le monde est...
Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi je me suis dit ça, mais justement c'est plus par la réaction des gens. Et notamment dès le début, il y a un petit contre-champ que je trouve assez génial, quand il est encore en prison, où il commence à chanter, et on voit un contre-champ sur le visage de...
Patricia Neal,
Du personnage de Marcia. Et elle est vraiment... elle a un visage radieux, quoi. Genre, ouais. Oh, elle est épatée, à la fois, elle est heureuse d'avoir trouvé, tu vois, quelqu'un de...
Bah pour son émission, pour son émission, il y a quand même une question de business aussi derrière.
Et, mais tu vois vraiment sur son visage que le mec est génial, quoi. Et je trouve que, tu vois, ce petit contre-champ-là, il en dit beaucoup, en fait. Et je trouve qu'il marche super bien, quoi.
Non, effectivement, surtout que les réactions de Marcia, de Patricia Neal, sont essentielles. C'est elle, la colonne vertébrale du film, quelque part. Mmh, c'est elle qui exactement. Décide de beaucoup de choses, finalement, ouais. Jusqu'à la décision finale.
Bah, écoute, vas-y, allons-y. Parlons un peu de son personnage. Moi, je trouve effectivement que... Alors, évidemment, j'ai pas dit les noms des acteurs. C'est Andy Griffith qui joue qui joue le rôle de Lawson Rhodes. Il joue un personnage assez proche de qui il était. Enfin, peut-être pas un salaud, mais
au niveau de... du côté un petit peu petit chéri des États-Unis, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Enfin, vraiment, cet acteur un peu, mais qui a jamais non plus une carrière artistique extraordinaire. Enfin, il est resté dans des rôles très proches du peuple.
Un gros show à la télé, quand même.
Oui, non, mais voilà. C'est ce que je dis. Ouais. C'est un gros show, c'était populaire, mais c'était pas. Il n'y avait pas une ambition
artistique phénoménale.
Voilà, artistique phénoménale, on va dire. Ça restait très sympa, mais pas. Ce qui n'est pas le cas de Patricia Neal, qui a eu des ambitions artistiques un petit peu plus élevées.
Qui est géniale. Justement, moi, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est elle qui tire encore plus son épingle du jeu.
Et heureusement, parce que je trouve que le rôle est important, mais je trouve qu'il manque d'écriture parfois, le rôle de Marcia. Il y a des moments où... Je sais pas, je dirais peut-être. Mais comme c'est Patricia Neal, elle apporte ce qui manque dans l'écriture, je trouve.
Ouais, il y a un gros passage au milieu où son personnage est un peu mis de côté et il revient très fort sur la fin.
Ouais.
Où justement, comme tu dis, au moment où il commence un peu à faire de la politique, etc., à mettre en avant ce.
Parce que, ouais, là, on parle un petit peu dans le vide, mais on comprend qu'il y a une relation très forte entre les deux, qu'ils ont l'idée de se marier, sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'il est encore marié à son ancienne femme. Et qui doit divorcer.
Ouais, alors c'est surtout que au moment où il repart dans le sud et il dit je vais aller divorcer, et en fait il revient, il est marié à une autre fille.
Ouais, là, j'y allais. Ouais. Enfin, mais oui, il faut expliquer la situation. Elle croyait à ce mariage parce que finalement ils sont partenaires. C'est elle qui le drive. Elle fait un petit peu le rôle d'agent quelque part. C'est elle qui.
Plus que ça aussi, on se rend compte parce qu'à la fin, à un moment, elle vient pas au à l'enregistrement de l'émission. Enfin, c'est en direct, mais à l'émission.
Public,
et tout le monde fait « Oh là là, comment on va faire pour tout coordonner, pour tout organiser ?»
Oui,
elle est plus que manager. Elle a vraiment aussi un rôle sur le terrain, quoi, on va dire.
Oui, mais en même temps, les agents peuvent avoir des rôles sur le terrain aussi. Enfin, elle est, clairement, c'est elle qui le gère, lui, sur plein d'aspects. Qui gère ses problèmes émotionnels, ses coups de colère, ses coups de... Bref, elle est là. Donc, ça paraît sensé et normal qu'il se marie, surtout à l'époque, n'imagine pas les choses autrement. Et sauf que bon, il doit divorcer, donc il fait tout pour aller divorcer, sauf que en chemin il se fait, c'est dans quelle ville déjà, je pars un peu dans tous les sens là.
C'est pas sa ville, la ville justement ils l'ont trouvé,
mais justement je cherchais le nom, il retourne dans une
Riddle.
Peut-être sa petite ville, et il y a grosso modo le maire qui décide de donner un spectacle en son honneur avec des majorettes.
Voilà, un concours.
Oui, c'était un concours d'ailleurs, c'est pas vraiment un spectacle, c'était un concours. Bref. Et il finit par épouser la petite majorette de 17 ans qui est donc sa groupie. Enfin voilà, donc c'est vraiment je trouve ça tellement horrible pour le personnage de Patricia Neal. C'est tellement bête.
Et c'est marrant parce que au moment où. Enfin, marrant, c'est pas le bon terme, mais au moment où elle lui propose de se marier, la chose qu'il lui répond, c'est « Don't hurt me, ne me blesse pas », quoi. Parce qu'elle a déjà compris que ça va mal tourner et il peut pas s'empêcher de le faire, en fait. C'est ça qui est fou.
Oui, on comprend pas bien pourquoi, d'ailleurs. Enfin, si, il est tellement parti, il n'existe... Enfin, voilà, la réalité n'existe plus à ce moment-là.
C'est vrai. Mais est-ce qu'il a... Quand on voit qu'il profite un peu de tout le monde, que c'est un manipulateur et tout ça, est-ce qu'il a vraiment tenu à elle à ce point, au point de vouloir se marier avec elle, de l'aimer vraiment?
De toute façon, il est attaché à elle, ça c'est sûr. La séquence de fin paraît assez, assez claire. Je sais pas si on va peut-être pas aller jusqu'à raconter ce qui se passe à la fin, mais c'est évident qu'il est très dépendant d'elle finalement.
Et tu disais que le personnage de Marcia, est central aussi. Et c'est vrai que ce qui est génial dans le jeu de Patricia Neal, c'est qu'on voit même physiquement, comme je te disais au début, il y a ce visage radieux, et à la fin, elle est comme, je sais pas quel est le terme, mais déprimée, on va dire, et ça se voit sur son visage qu'elle est dégoûtée de ce qui se passe et de ce qu'elle a créé, en quelque sorte.
Elle a quelque chose de très expressif, et en plus, je la trouve vraiment très intéressante comme actrice, parce qu'elle est pas dans les canons de beauté de l'époque exactement. Elle est très belle, ça y est pas de souci, mais elle a un visage très particulier qui est...
C'est vrai.
Qui est un peu un petit visage de souris, quelque part. Vous regarderez. Et oui, effectivement, elle est passée par l'acteur studio, et ça se sent, il y a quelque chose de très vivant et de très... qui part vraiment de son intérieur à chaque fois. Elle est très touchante.
On la voit dans... je pense que le film le plus célèbre, c'est Breakfast at Tiffany's.
Oui, mais elle a un
second rôle.
Elle a un second rôle, mais...
Ouais. Mais c'est le... Elle joue la voisine du dessus...
Elle joue la... Comment on pourrait dire...
L'amante.
L'amante, oui.
On va dire ça. C'est pas le bon terme.
C'est pas vraiment l'amante. Enfin, c'est comment on peut dire ce qu'on dit. La sugar mommy. Non, mais vraiment, je sais pas comment on peut le dire autrement.
Ouais, c'est
ça. Un personnage principal masculin.
Et elle joue aussi... Elle a le premier rôle dans un film, c'est marrant, dont on a parlé quelques fois dans le podcast. Elle joue dans Le jour où la Terre s'arrête. Hein. C'est elle qui a le rôle...
Je n'ai toujours pas vu. Alors que pourtant, j'adore les films de science-fiction des années 50, que je trouve toujours fou.
Je l'ai pas vu non plus, moi, mais c'est pareil. Il est souvent évoqué dans cette émission. Il va falloir que je fasse quelque chose.
Tu vas faire une émission dessus.
Bah, je vais être obligé.
Obligé.
Bon, écoute, ouais, moi je la trouve géniale. Franchement, elle est super, quoi. Et il y a cette évolution-là, comme on l'a dit. Ils se croisent un petit peu. C'est ça qui est marrant avec le personnage de Lonson Roth. Où lui, il devient de plus en plus détestable, et elle, finalement, elle devient de plus en plus humaine.
Elle est de plus en plus touchante, mais il y a un moment touchante. Où, quand même, mais pars, ma fille! Parce que, pour le coup, si autant dans All That Jazz, on est 100% dans la tête de Gideon, on ne sait pas ce que vivent et ce que ressentent réellement les autres personnages, autant dans ce film-là, elle a quand même des scènes à elle, elle est un personnage à part entière, elle n'est pas que vue par le prisme du personnage de Lonesome Rhodes. Et il y a des moments, elle a la possibilité d'aller ailleurs, de faire autre chose. Et jamais elle ne le fait pas. Pourquoi ?
Mais au niveau business, elle est quand même un peu coincée là-dedans. Je pense que... Alors après, c'est un peu la conscience morale du film, tu vois, parce que quand l'autre, il commence à fricoter avec les politiques et à manipuler les gens pour qu'ils votent pour ce sénateur-là, elle est dégoûtée. Mais son côté aussi un peu moral l'empêche de se barrer, justement. Elle se sent liée, elle n'ose pas couper ce lien de confiance, en fait, même si bon, il est un peu à sens unique, qu'elle a avec Roth.
Oui, après, c'est l'éternel personnage féminin du « c'est devenu un connard, mais je peux le sauver ». Non, jamais.
Et à côté de ça, il y a ce personnage qui est joué par... alors évidemment, ça va être pareil, on ne va pas réussir à être exhaustif complètement sur ce film. Hein,
non,
mais
c'est
qui
vrai
est joué par Walter Matthau. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais qui est justement le gars qui est là pour être un peu l'auteur au début, pour aider Lawson Rose, et qui finalement, vu que l'autre improvise à moitié tout le temps, c'est pas grand-chose, mais qui... voit ce qui se passe de l'intérieur et écrit un livre sur Lawson Rhodes.
Et puis c'est un petit peu le regard, ce que j'appelle les personnages accroches du public. Ces personnages qui sont effectivement dans l'intrigue, mais qui ont cette distance, et du coup le public va un petit peu pouvoir s'accrocher à ce personnage pour avoir la bonne distance. Ce qui est toujours intéressant comme type de personnage, oui.
Et donc, oui, il y a ce personnage qui lui dit un petit peu la même chose que tu disais, mais barre-toi, c'est bon, tu vois bien que... Et donc, on les voit à un moment, il y a cette scène où ils sont tous les deux en train de le regarder à la télé, justement dans ce concours de majorette, et en train de boire des verres avec leur mine de confite.
Ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est son côté quand même très moderne. Et parce que des Lonesome Rhodes, maintenant, on en a quand même.
Et c'est ça, c'est que le film est ultra prophétique, quoi.
Des tas, ces espèces de pseudo-influenceurs qui finalement ne font pas grand-chose. Et finalement, c'est peut-être pour ça que c'est intéressant qu'on ne le voit pas tellement performer, dans le sens où c'est même plus si important que ça.
Ouais.
Finalement, c'est juste l'influence qu'il a sur les masses qui est important.
Ouais, et c'est ça qui est fou, c'est que quand tu vois le film, tu peux pas t'empêcher de penser à des gens qui sont actuellement à la télé.
Je veux pas en citer, mais moi, ça m'en fait penser un en particulier.
Ouais. Ah ouais, moi aussi.
Oui, on est d'accord, on pense au même.
Qui a l'air très proche des gens, hein, et qui en même temps
mais pas tellement.
Répond pas tellement et répond à un agenda politique.
Ouais, hein, exactement. Toute ressemblance.
Il y a d'ailleurs ce petit passage où la première fois qu'ils rencontrent le sénateur Lawson Rose, ils font une projection d'un de ses discours, ils font « c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et t'as un des conseillers du sénateur qui dit « mais la politique et le showbiz, c'est deux choses différentes ».
Bah non.
Et l'autre, il dit « bah non, non,
non,
bullshit ». C'est exactement la
et,
même chose.
Et c'est de pire en pire. Et si c'était peut-être le cas à l'époque, dans les années 50 et peut-être avant, là, c'est plus du tout le cas. De toute façon, les politiciens sont devenus des show business bien plus que des politiciens. Enfin, on le voit bien. Dire, il suffit qu'il se passe un tout petit truc dans je sais pas quelle ville en France et on attend des politiciens qu'ils aillent sur place faire leur petit show pour la télé.
Ouais, alors à nouveau, hein, on a dit déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire un petit peu en plus sur le film?
C'est compliqué.
Moi,
ouais, vas-y.
Il y a un petit plan parce que là, bon, on a pas trop parlé de réalisation. Il y a quand
c'est
même,
vrai, beaucoup plus de thématiques. Alors que pourtant, Elia Kazan, quand même.
Ouais. Il y a plein de scènes et de moments. Il y a beaucoup de caméras en mouvement. Il y a tous ces petits montages aussi où on voit la montée de Lawson Rhodes. Mais il y a un plan que j'ai bien aimé où un des gars, des producteurs, qui est en train de faire un malaise et lui, il est un peu backstage là pendant l'émission. Et on le voit en contre-plongée avec derrière lui un projecteur. Et
c'est vrai que j'allais te dire le principe de la contre-plongée. Enfin, il y en a tout le long du film.
Ce qui
est assez marquant, et évidemment, le contre-plongée, grand moyen de filmer les grands méchants de cinéma.
Et de leur donner de la puissance.
Et de leur donner de la puissance, exactement. Et c'est subtilement utilisé parce que c'est pas non plus.
Trop tape à l'œil.
Mais je pense pas, de toute façon, Elia Kazan soit un cinéaste du tape à l'œil. Hein.
Non.
Ça, par contre, on peut lui, comment dire, comparer à Bob Fosse. On est sur deux registres très différents.
On est très différents, mais comme tu disais, c'est bizarre qu'on n'ait pas beaucoup parlé de réalisation.
Mais quelque part, c'est qu'il a une réalisation, une mise en scène tellement fluide et tellement proche de son sujet que c'est pas quelque chose qui va. On va plus avoir envie du coup de parler du sujet que de mise en scène tellement c'est intrinsèquement lié, quoi.
Exactement. Ouais. Mais comme je disais, la petite scène où ils sont en train de boire leur tête déconfite et qu'on les voit, qu'ils regardent l'autre à la télé, c'est un choix qui
c'est
est...
ça. Et pareil, je trouve d'ailleurs ce lieu du bar, qui doit sûrement être pas très loin du studio d'enregistrement, j'imagine, cette espèce de purgatoire un peu d'entre-deux, de lieu hors du lieu, ils sont obligés pratiquement de se cacher, on a l'impression de se cacher de l'énorme monstre qui est devenu... C'est un choix assez malin, finalement.
Ouais, c'est vrai, ils ont l'air, comme tu dis, quand ils sont dans ce bar, on dirait qu'ils sont dans une grotte ou on sait pas où...
Ça fait très film noir, la discussion un peu cachée, un peu... Non, c'est très malin, ce goût. Le film noir, il en a fait plusieurs quand même, il y a 15 ans, donc il connaît. Donc à mon avis, c'est très réfléchi. C'est une mise en scène vraiment très intelligente.
Il y a évidemment, sans spoiler, la scène de l'ascenseur à la fin, qui est aussi une mise en abîme. c'est ça. Il y a plein de petites choses. Même, comme je disais tout à l'heure, le petit contre-champ sur le visage.
Il filme bien Patricia Neal, effectivement.
Ouais, de Patricia Neal.
Il faut dire qu'elle donne, quoi.
Elle donne. Ouais, elle est géniale. Est-ce que... il y a des choses qu'on a un petit peu survolées, mais en même temps, on a quand même bien parlé du film. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu veux rajouter? Ou est-ce qu'on passe à cette fameuse comparaison? Ah.
Je dirais non, c'est vraiment un film extraordinaire, ça y a pas de souci.
J'ai l'impression qu'il y a un mec qui va arriver.
Ouais, mais je trouve que par contre, il rentre un peu trop facilement dans le moule du Rise and Fall classique. Et c'est peut-être il y a pas trop de surprises au final sur là où va aller le film. C'est peut-être un des petits. Est-ce un reproche? Je ne sais pas. On le sent. Je ne sais pas parce qu'en même temps, avoir quelque chose de très classique dans la structure, ça permet de s'intéresser à d'autres détails. Je ne sais pas.
Mais moi, je trouve que ce qui nous sort un peu de ce truc-là, c'est justement le personnage de Marcia qui reprend, comme je disais, de l'importance sur la fin. Et finalement, sur la fin, on est plus sur elle que sur lui. Et c'est ça qui sort un peu du côté classique du Rise and Fall, je trouve.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai que c'est une manière intelligente de le concevoir.
Et peut-être de surprendre aussi un petit peu. Tu vois, comme tu dis, on le voit venir si on a l'habitude de ce genre de film. Et peut-être que là, ça... Peut-être pas de surprendre, mais en tout cas de sortir des canons, comme tu dis.
En tout cas, vraiment belle surprise. C'est dommage qu'il soit pas assez connu, je trouve.
Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas reparlé des Oscars pour All That Jazz, qui en a gagné quelques-uns. Et je me suis dit, mais ce film-là, il a dû gagner des trucs. Et en fait...
Je crois pas, non.
Ben non, parce qu'il est tombé. Alors voilà, écoute, ouais. C'est évidemment le truc que j'ai pas noté.
Eh ben, le temps que tu cherches les informations, 6 petites infos sur Bob Fosse. J'en profite.
Vas-y.
C'est le premier artiste à avoir reçu la même année les 3 récompenses principales. Donc un Tony, un Emmy et un Oscar. Et quand même, ça c'est plutôt cool. Voilà. C'était le petit intermède.
Ça l'a pas aidé pour son ego, hein, je pense. Ah oui, c'est ça. Donc il est tombé la même année que Le Pont de la Rivière Kwai.
Ah ouais.
12 hommes en colère.
Ah oui, putain.
Il y a aussi Sayonara. Mais bon, alors Le Pont de la Rivière Kwai a raflé beaucoup d'Oscars. Donc ouais, voilà. Ouais. C'était une année un peu compliquée pour gagner des Oscars.
Bah, il y a des années comme ça, hein, effectivement.
Tomber la mauvaise année, quoi, pour les Oscars.
Ça arrive.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il est peut-être un peu oublié. Bon, et puis c'est vrai que quand on parle de Kazan...
Il y a tellement des monstres. Ouais. Que, ouais, effectivement, c'est pas forcément le premier film sur lequel on va se tourner.
Est-ce que tu es prête à passer au choix ?
Ouais, absolument.
Je vois la réflexion qui commence déjà.
Non, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Enfin, c'est bien dans ton concept d'émission, mais il y a un moment, des fois, les deux ont leur. Les deux films ont leur défaut, leur qualité. Vas-y.
Je couperai cette critique.
C'est la nature du métier.
C'est pas une conversation, c'est un ultimatum.
Nous devons faire des choix.
Ça va trancher, chérie.
Nous arrivons donc au moment du choix. Et je rappelle, et oui, on arrive bien sûr à ce grand principe que tout le monde adore. Le principe est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film sur le show business ?» Alors on va comparer un petit peu les films, on va réfléchir, hein. Mais pour trancher, il y a un système de points qui est mis en place. Comme aurait dit Bob Fosse, c'est un très bon système, c'est moi qui l'ai mis en place. Donc on va avoir 20 points chacun et il va s'agir de les répartir entre les deux films pour dire lequel est le meilleur. Si on trouve que les deux se valent, on met 10-10. S'il y en a qui est un peu mieux, 11-9, etc. Jusqu'à 20-0 éventuellement. On additionne nos scores et ça nous donne...
Est-ce qu'il y a déjà eu un 20-0? Je pense pas.
Non.
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 Non, c'est se tenir, on est des gens... mais comme je disais, on peut un peu comparer les films. Tout à l'heure, on a vaguement commencé. On s'est dit, mais non, il faut attendre. Donc, on peut foncer, là, c'est le moment.
Ouais. C'est pas facile, parce qu'ils ont vraiment deux aspects très différents de montrer le showbiz, quand même.
Ouais.
Alors, effectivement, l'un comme l'autre, il y a le côté un peu cynique.
Oui, c'est
vrai. Voilà, ça, on est bon. Mais le premier... Donc All That Jazz montre vraiment l'amour de l'art, l'amour de la création, ce qu'on n'a pas du tout dans le deuxième. Personnellement, je pense que c'est ça qui me chagrine le plus. J'aime beaucoup l'art de la scène, j'aime beaucoup le spectacle, j'aime beaucoup le cinéma, et du coup j'ai envie d'en voir. A Face in the Crowd me donne pas ça du tout, quoi. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc première attaque, voilà, c'est parti.
Ouh là là. Moi, le point commun, c'est que c'est aussi quand même des films sur l'ego à fond.
Ouais.
Donc on l'a dit, hein, l'humilité de Bob Fosse ressort.
Bah si, enfin, je vois pas.
et on l'a évoqué aussi, Lost on Rhodes, il y a cette scène aussi, un moment où il se rend compte du pouvoir qu'il a sur les gens, encore plus, parce qu'évidemment, il manipulait déjà, mais là, il se rend compte qu'il peut leur faire vraiment n'importe quoi, avec les chiens, là.
Là, j'ai envie de te dire, un petit peu point pour un homme dans la foule, parce que, oui, on est vraiment dans un égo trip total chez... que le spectacle commence. Ce qui, alors moi, me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin, il sort pas de lui-même, quoi. Il y a pas de réflexion. Il y a pas, voilà. Mais au moins, c'est plus immersif et plus total comme spectacle.
Ouais. Et oui. Mais donc voilà, ça c'est un peu le point commun. Effectivement, il y a deux façons de le traiter. Il y en a un qui va plus être sur les dessous du showbiz aussi, quand même. Hein. Face in the Crowd, évidemment, nous montre un peu plus les ficelles qui sont tirées derrière, etc.
Ah, je suis pas totalement d'accord. Dans le sens où, que le spectacle commence, tu les vois aussi les ficelles. C'est plus en demi-teinte. Mais on a quand même les assureurs, on a les producteurs,
on a la salle de montage. Tu vois, si on veut comparer, ce sont plus des petits passages de temps en temps où il rajoute ça. Alors la salle de montage, ah oui, parce qu'à un moment, effectivement, il y a aussi un producteur du film, ou en tout cas un associé ou un manager qui vient le voir pour lui dire « Ah dis donc, il faudrait peut-être finir ton film !»
Les ficelles, c'est pas que ceux qui ont l'argent, t'as aussi
les intermédiaires, ouais.
Les gens qui travaillent avec lui, ceux qui du coup passent le film et ont dû se le refaire un million de fois et qui n'en peuvent plus, des vannes pourries de l'humoriste, parce que c'est un film sur un humoriste. Il y a tout ça, il y a l'épuisement, il y a le fait que la journée dure de je sais pas, 7h du matin à 22h du soir, que tu ressens pas dans Face in the Crowd.
C'est vrai.
Bon, t'as un petit peu plus le côté bon, qui tire les ficelles, comment ça marche, etc. Mais t'as pas l'épuisement de la vraie journée quand t'es dans le showbiz, quoi. Alors que tu l'as dans... Et c'est tout autant les coulisses, et c'est tout autant...
C'est tout autant. C'est pas, effectivement, c'est pas les mêmes coulisses. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je me suis mal exprimé. Ouais, c'est vrai.
Non, mais du coup, c'est deux aspects intéressants, mais qui se complètent bien.
Ouais. Écoute... Au niveau de la comparaison, qu'est-ce qu'on peut rapprocher encore entre les deux films ?
Si, et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est le côté, une fois que t'es dans le showbiz, tu peux faire plusieurs activités. Alors, c'est peut-être plus lié aux États-Unis, nous, on n'a pas trop ça. Mais une fois que t'es dans le monde, que t'es dans le truc, il y a moins de parois. Enfin, je veux dire, si t'es un artiste, ça peut être un artiste total. Donc, Joji Léon, il est cinéaste, il est chorégraphe, il est danseur, machin. Et à côté de ça, Lonesome Rhodes, même s'il est moins artiste dans le grand sens du terme, bon, il fait du spectacle, il fait du chant, il fait... Enfin, il est...
Il raconte des blagues.
Voilà, il est humoriste, il est... C'est un peu un...
Un touche-à-tout.
Ouais, un touche-à-tout. Enfin, voilà. C'est deux touche-à-tout assez différents, mais quand même.
Bah, oui, c'est-à-dire que... y en a un, c'est un génie total, évidemment.
Tout
ce qui touche se transforme en or. Hein, voilà. Et de l'autre côté, c'est plus le gars qui est capable d'un peu tout faire et qui, du coup, fait un petit peu tout et il fait tout bien, quoi. Voilà.
C'est ça. Mais tu l'as dit, c'est un génie.
Ah bah c'est lui qui le dit, c'est Bob Fosse qui dit ce mec là que je suis en train de. Donc sur qui je fais un film, ce mec là, c'est un génie total. Ah bah c'est moi. Ah bah voilà, bah je suis un génie total en fait, j'avais oublié. Heureusement que j'ai fait ce film. Écoute, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter des petites choses ou est-ce qu'on attaque vraiment la partie.
Est-ce qu'on prépare un petit point personnage féminin quand même ?
Un petit point personnage féminin, allez, ça peut être intéressant.
Allez. Dans Un homme dans la foule, c'est vrai que quand même le personnage de Marcia est primordial et passionnant et quand même beaucoup mieux écrit. Enfin voilà, il existe. Alors que c'est pas forcément le cas dans All That Jazz, mais par contre, je trouve. Oui. Il n'y a pas de mauvaise foi.
On va voir à la fin de cette phrase.
Que les séquences de danse sont en général dansées par des danseuses, par les différentes femmes de sa vie, et qu'elles sont extraordinaires, et que c'est ça qui fait le film bien plus finalement que les séquences parlées de Joji Léon. Donc,
mais alors... Elles vivent quand même uniquement que par lui. Soit effectivement parce que elles le regardent avec des yeux remplis d'admiration, soit parce que c'est lui qui les regarde danser.
On est d'accord, elles sont écrites que par son prisme à lui, mais c'est elles qui font le film bien plus que lui, je trouve, quelque part.
Ben oui, parce que c'est un metteur en scène de génie, même de sa propre vie.
Qui a de la mauvaise foi, alors?
Mais il y a cette petite scène dont on n'a pas parlé, où à un moment sa copine elle prépare un petit spectacle de danse avec sa fille quand ils sont chez
génial,
lui.
Cette là.
C'est très très sympa.
Génial, cette séquence.
Très sympa. Mais une fois de plus, elles sont là pour lui plaire, en quelque sorte.
Oui, bah oui, c'en est que sur. Enfin, c'est son prisme à lui, et de toute façon, c'est impossible de communiquer avec lui autrement que par la danse. Donc les seuls moments où on les voit, elles, c'est le moment où elles dansent, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre langage pour lui. Même le moment où il a une petite discussion avec sa fille, bah, il l'a fait répéter, quoi.
Ouais,
enfin, il l'a fait danser, parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est plus fort que lui.
Le point pour le personnage féminin revient quand même à Face in the Crowd. Je crois qu'on peut quand même...
Moi, je dirais point...
Partagé.
Partagé, exactement.
Okay.
Parce que elles n'ont pas le même rôle, elles n'ont pas la même façon d'être considérées, mais quand même, on ne peut pas nier le fait que les personnages féminins sont importants dans All That Jazz. Parce que, enfin, il n'y a qu'un enchaînement de scènes de danse, et à chaque fois, c'est des danseuses.
Il y a des danseurs aussi.
Oui, mais on les voit beaucoup. Enfin,
on les voit
sont
beaucoup
moins importants.
Ils sont moins importants, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Ils ne dégagent pas quelque chose dans la narration du film. Les personnages n'existent pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire.
Bon, est-ce que tu te sens de mettre une note ou...
Bah moi, j'aime pas mettre des notes, mais ok, c'est le jeu.
Est-ce que tu veux que je commence ?
Moi, de toute façon, j'ai déjà décidé. Donc. Non, mais en vrai, je vais être cool parce que c'est trop compliqué, je trouve. J'ai forcément un préféré. Forcément, c'est lequel, mais je vais pas...
Je ne sais pas, lequel c'est ton préféré des deux.
Donc, mais commence si tu veux.
Non, vas-y.
Oui, du coup, ça va être 11 pour All That Jazz et 9 pour Face in the Crowd. Ils sont très différents, même s'ils parlent du même sujet. Mais même si j'ai une préférence pour que le spectacle commence, je peux pas nier l'intelligence du film d'Elia Kazan. C'est pas possible. Donc, voilà. Et je comprends les critiques qu'on peut faire à que le spectacle commence. Je suis pas non plus. Je les vois. J'ai beaucoup de mauvaise foi, mais je les vois quand même.
Écoute, dans la question, il y a le fait de conseiller le film.
Ouais, moi je conseillerais les deux. Je crois que j'avais déjà dit ça en plus à la première émission.
Comme on a dit tout à l'heure, la mise en scène de Faces in the Crowd est plus discrète.
Oui.
Et notamment cette fin en apothéose, hein, All That Jazz, qui peut-être gêner certains, je sais pas.
Oui, j'ai vu que la séquence avait été quand même pas mal critiquée, alors que, en toute honnêteté, je la trouve extraordinaire.
Bah moi, je trouve qu'elle est tout à fait logique. Évidemment, elle est too much, mais...
Oui, mais le personnage est too much.
C'est à propos, quoi.
Le personnage est too much, donc...
Donc peut-être que ça peut être un peu compliqué, alors que justement, moi, c'est ce que je disais, je trouve, c'est ce que j'aime dans le film, je le trouve génial par sa mise en scène, All That Jazz, pardon. Il en fait beaucoup. Moi, j'aime bien les films quand ils disent c'est un film, tu vois. Et là...
C'est un film.
C'est un film. Il n'y a aucun moment où il te dit « Ouais, c'est la réalité, hein, ce que je suis en train de te montrer. » Non. Donc, je trouve ça génial. Je l'ai déjà dit, hein, j'ai été énormément refroidi quand j'ai vu que c'était l'histoire d'un mec qui se la racontait. Ah, c'est pas facile, ce qu'il faut faire. Face in the Crowd est aussi un film génial, comme tu l'as dit, étrangement un peu oublié.
Oui, alors que quand même, il a un côté un peu prophétique, entre guillemets.
En plus, peut-être qu'il est... Mais c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il parle peut-être plus aux gens maintenant qu'à l'époque, je sais pas trop...
Pourtant, apparemment, il était inspiré de plein de showmen, enfin de présentateurs de radio, etc.
Peut-être qu'on se rendait moins compte à l'époque de ce qui se passait vraiment, je sais pas.
Est-ce qu'on se rendait compte que ça allait être aussi puissant et important dans les années à venir, je sais pas.
Ouais. C'est peut-être l'ampleur que ça a pris qui était pas forcément évidente à l'époque, ouais. Bon, écoute, je sais pas que j'essaie de noyer de poisson, hein, du tout, en finissant pas mes phrases aussi. Je crois que je vais être obligé, moi, de mon côté, de mettre 10-10 aux deux. Ah. C'est un peu mou, hein, comme choix. T'es déçu ?
C'est ton choix, écoute. Hein. on aurait pu avoir un ex-écho aussi. Ça aurait été bien.
Tu crois ? Non, je vais mettre 10-10. Je pense sincèrement que si le film n'avait pas été autobiographique, j'aurais été du côté de la jazz. Mais ça m'a tellement refroidi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir un tel égo.
Mais est-ce que tous les films sont pas un petit peu autobiographiques ?
Si, bien sûr. Mais tous les films...
Ne montrent pas des génies de la danse. Ouais.
C'est des génies de la vie, même.
Oh non, je pense qu'au contraire, il dit que c'est un handicapé de la vie dans son film.
Ouais, peut-être. Mais bon, c'est un génie quand même. Je vais mettre 10-10, ce qui veut dire quand même que la prochaine fois qu'on a un pote, il nous demandera « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film ?» Sur le showbiz, il faudra dire... All that jazz.
Ou que le spectacle commence.
Au choix, entre les deux.
Je crois qu'on a passé tout le podcast à dire les deux titres à chaque fois, mais pour les deux films d'ailleurs.
Ouais.
Donc essayez de suivre un peu.
De suivre un peu, quand même. Alors, pour revenir un petit peu sur ton actualité, on a parlé de Fucking Cinéphile. Il y a des choses qui vont sortir bientôt.
Ouais, alors j'ai une actualité, mais le podcast ne sera pas publié, donc ça ne sert à rien. Ah.
Oui, bah tu peux en parler quand même, vas-y.
Je vais animer un débat, une avant-première du film Vampire humaniste, cher suicidaire consentant, avec la réalisatrice et les acteurs au MK2 Bibliothèque, et ça risque d'être très bien. Donc a priori, le film sera sorti, normalement j'aurais fait une critique dessus, donc vous pourrez aller la voir sur Fucking Cinéphile, mais allez voir le film, vraiment c'est une petite pépite.
Et la sororité ? Bien sûr.
Oui, mais alors pour le moment, on n'a pas d'actualité, donc.
Pas de choses prévues un petit peu.
Non, pas pour le moment. On continue. Alors on continue nos lives. Hein. On a un live avec la réalisatrice justement de Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant qui arrive. 3-4.
C'est un bon titre.
Mais pour le moment, on a rien de prévu. Mais il va forcément y en avoir.
Elle est francophone.
Oui, elle est québécoise. Mmh. Donc ouais. Et le film est francophone d'ailleurs. Mmh. Donc on va avoir certainement des lives qui vont arriver, mais je pourrais pas vous dire exactement lequel, quand. Et sur quel sujet, là, maintenant, tout de suite.
D'accord, ok. Donc, il faut suivre la sororité un peu partout, comme a dit Jess déjà la dernière fois.
C'est ça, exactement. Sur Twitter, sur Instagram, etc., etc.
Toi, on te retrouve aussi pareil sur les réseaux.
Pareil,
c'est quoi ton petit pseudo
Léo Yurilo, tout attaché. Voilà. Sur Twitter, Instagram.
Partout, pareil.
Et TikTok.
Ah, TikTok.
Et TikTok, ouais, je me suis mis à faire des petites critiques de films, comme ça, en une minute et demie, grosso modo, et c'est assez rigolo à faire, en fait.
Oui, c'est peut-être plus facile que en.
Ah, bah là, faut décider, hein. C'est sûr qu'on peut pas, parler de tous les sujets du film, ça, voilà. c'est une évidence, faut être concis.
Bon, bah écoute, merci beaucoup Léo, c'était
un plaisir. Merci à toi, merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir.
Et puis bah écoute, on fera peut-être une troisième.
Eh bah tu me diras, tu me tiens au courant. Avec plaisir.
Merci.
Bon, excusez-moi, il est tard maintenant, il faut que je rentre.